Les clés de la ville. Une production Figaro Immobilier et Radio Immo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Next City. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Voilà, nous sommes à Poitiers, une ville magnifique que je vous invite bien sûr à découvrir. Et l'idée des clés de la ville, bien évidemment, c'est d'essayer de vous faire découvrir au plus proche les territoires de notre très beau pays, d'aller dans les villes qui parfois ne sont pas forcément visibles au niveau national et de mettre un peu de focus, un peu de lumière sur la fabrique des territoires, la fabrique de la ville, avec celles et ceux qui les animent et bien évidemment, ce qu'on aime particulièrement, les élus locaux qui nous reçoivent toujours avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de chaleur. Je suis toujours accompagné, bien évidemment, vous le savez les amis, puisque maintenant c'est la cinquième saison, on a déjà fait quasiment deux fois le Tour de France, et je suis accompagné de mon complice avec qui nous avons créé cette émission. Il est rédacteur en chef au Figaro Immobilier. Bonjour Olivier Marin.
Bonjour Sylvain.
Au programme.
Très heureux, 40e ville aujourd'hui. On peut avoir quand même 40. Une grande fierté
en fait,
mener ce Tour de France qui n'est pas fini. Effectivement, en tout cas, très heureux d'être ici à Poitiers. On rappelle avec Figaro Immobilier et Radio Immo, on se plonge au cœur des territoires pour mieux comprendre à la fois les attentes, les besoins, décrypter aussi les enjeux de la ville. C'est aussi un grand plaisir, toujours le même principe qui fonctionne et qui a fait ses preuves. On pose nos valises et on parle immobilier et logement, bien sûr, mais aussi urbanisme, environnement, architecture, patrimoine, et à travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme, il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. C'est ce que l'on verra encore aujourd'hui à travers des reportages, des échanges, des témoignages en plateau de personnalités emblématiques, des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour cette deuxième étape de cette saison 5, après Nantes, nous sommes donc très heureux d'être à Poitiers, reçus par notre grand témoin, avec qui nous sommes très heureux de partager le plateau aujourd'hui. C'est Léonore Monconduit, maire de Poitiers, bonjour.
Bonjour.
Très heureux de partager évidemment cette émission. Maire de Poitiers, vice-présidente du Grand Poitiers. Nous aborderons avec vous l'habitat, le logement, des conseils pratiques également. Et puis on va retrouver nos partenaires comme à chaque fois. Et chaque mois, il y a notamment un notaire du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, nous recevrons maître Thomas Duburc. Avec lui, on fera un tour d'horizon sur l'évolution des prix, des ventes à Poitiers. Il délivrera aussi des conseils pratiques. Pour la séquence La vie ensemble, nous recevrons Amaury Vallée, directeur régional Centre Val de Loire Océan du groupe Next City. L'occasion de faire le point, de prendre le pouls du marché, de l'activité, des projets dans le neuf à l'échelle de Poitiers, sa périphérie. Une séquence bien mieux avec notre partenaire Elio pour aborder la rénovation énergétique. Pauline Courbet-Dubost, responsable des affaires publiques de Elio, viendra nous éclairer sur les derniers dispositifs. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'attentes aussi en matière de rénovation énergétique. On ne sait plus trop où on en est. Elle viendra nous expliquer.
C'est justement,
elle va essayer de nous expliquer. Et puis, il y a des séquences, on verra celle notamment de Grégoire sur la ville de Poitiers. Voilà, en tout cas, un magnifique programme pour cette première émission, cette deuxième émission des Clés de la Ville à Poitiers.
Absolument. Et d'ailleurs, Grégoire, vous êtes venu avec le réalisateur de notre groupe, Alexandre Burkhardt, pour tourner quelques images, me semble-t-il. Et d'ailleurs, je crois que vous vouliez dire un mot, mais vous le dites après le reportage. Et d'ailleurs, juste en quelques mots, Grégoire, vous êtes venu. Bon, il pleuvait un peu.
Oui.
Vous avez tourné de très belles images.
C'était une autre météo ce jour-là, mais comme on était très bien accompagnés et qu'on a été très bien accueillis, vous allez voir que les images sont très belles.
Eh bien, je vous propose, mesdames et messieurs, vous toutes et toutes celles qui nous écoutent, de regarder ce reportage. C'est tout de suite.
Bonjour à tous, bienvenue à Poitiers pour cette 40e étape des Clés de la Ville. Une étape dans la ville aux 100 clochers, c'est la deuxième pour cette cinquième saison. Je suis ravi de vous accueillir sur la place Aristide Briand, à côté de la préfecture, à côté de l'hôtel du département. Bienvenue à Poitiers donc, une ville qui allie tradition et modernité. Et puis moi, je vous emmène la découvrir. Ville labellisée art et d'histoire au patrimoine particulièrement riche, ville à l'activité économique intense, Poitiers c'est un joyau qui n'est pas apprécié à sa juste valeur. Ancienne capitale régionale, Poitiers a également été capitale de la France. Nous sommes alors en pleine guerre de 100 ans et Poitiers et Bourges sont capitales du royaume du tout jeune régent et futur roi de France, Charles VII.
Alors Poitiers, c'est simple, c'est un W. Nous partons de l'Est, nous descendrons dans la vallée du Clain, nous remontons sur un plateau relativement plat en son sommet, assez long, et nous redescendons dans la vallée de la Boivre avant de remonter aux côtés de l'Ouest. Donc les Celtes, quand ils se sont installés, eh bien ils ont occupé tout simplement le plateau, l'oppidum, tout simplement. En moins 56, ils sont attaqués par une autre tribu gauloise. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font appel aux Romains. Au Moyen-Âge, et au temps d'Aliénor d'Aquitaine, la ville qui continue à se développer, notamment de l'autre côté des deux rivières, eh bien va avoir besoin d'être protégée. Et Aliénor d'Aquitaine et son mari, Henri II d'Angleterre, vont faire construire une immense muraille qui va suivre les contours de la rivière et protéger la totalité de la ville. Et ce n'est finalement que bien plus tard que la ville va se développer au-delà. Et ensuite, à partir du 19e et 20e siècle, eh bien la population va gagner les plateaux extérieurs.
Principal témoin de ce riche passé, le centre-ville de Poitiers. Plongé dans ses ruelles étroites, montantes ou descendantes au fur et à mesure de votre flânerie dans la ville. Une balade qui vous emmènera sur les traces des Romains le long de la Via Romana ou dans les pas de l'une des plus illustres dames de la ville, Aliénor d'Aquitaine.
Au temps d'Aliénor d'Aquitaine, bien sûr, qui a été reine de France d'abord et ensuite reine d'Angleterre et qui va avoir un rôle extrêmement important, une femme au pouvoir, donc un rayonnement sur toute la nouvelle Aquitaine actuelle.
Il est un passage plutôt facile entre le bassin parisien et le bassin aquitain, et Poitiers jouit ainsi d'une position stratégique à 300 km de Paris, 100 km de Tours, 120 km d'Angers, 130 km de Limoges, une position qui lui valut un développement important au fil des siècles.
Alors le rayonnement de la ville, ce qui a permis ce nouvel essor, c'est dû à plusieurs choses. D'une part, c'est dû dans les années 1851 à l'arrivée du chemin de fer et à l'implantation des militaires. Il y a aussi l'université. L'université, pendant très longtemps, a été la seule de toute la région. Nous avions des étudiants. Aujourd'hui, Poitiers a retrouvé toute sa valeur universitaire, en quelque sorte. Ça va entraîner l'arrivée de start-up, notamment, et donc ça va développer énormément la ville de Poitiers et Grand Poitiers, son agglomération. Et vous rajoutez là-dessus le Futuroscope.
Après la vieille ville de Poitiers, on a évidemment voulu nous rendre au Futuroscope. Le Futuroscope, c'est un parc d'attractions, un parc à thème, un bassin d'emploi, un bassin éducatif. Et nous, on a voulu s'en rendre compte et se rendre compte de son rayonnement. Pour cela, on a rencontré son responsable des relations extérieures, Jérôme Neveu, qui a accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup de nous recevoir, Monsieur Neveu. Est-ce que vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît, le parc du Futuroscope, l'ensemble que cela représente, son histoire et son rayonnement aujourd'hui ?
Le parc du Futuroscope, c'est né d'une idée originale du président du Conseil Général à l'époque, René Monory, qui recherchait une idée pour développer et aménager son territoire départemental. Il a eu cette idée de créer le Futuroscope, alors qui n'était pas au départ un parc d'attractions, c'était plus un lieu de réflexion sur les nouvelles technologies, l'informatique. Il a vu qu'il y avait une thématique qui se développait, notamment l'image sur toutes ses formes, et donc c'est comme ça qu'a été créé le Futuroscope, parc européen de l'image, où on pouvait trouver des cinémas dynamiques, de la 3D, ce qui était révolutionnaire à l'époque. On est en train de changer de dimension, on a une vocation à devenir une destination européenne de court séjour, puisque nous avons construit deux hôtels thématisés, la station Cosmos dans l'esprit de l'espace. Nous avons 120 lodges, un hébergement insolite au pied du parc pour rester plusieurs jours. Et cette année, avec la création de l'Aquascope, hein, notre premier parc aquatique, innovant là aussi, puisqu'on a, eh bien, on a surfé sur les technologies de l'image numérique pour les lier à l'eau, ce qui était unique au monde. Et donc c'est tout cet environnement qui permet aujourd'hui au Futuroscope d'être le troisième parc en France. Il y a plus de 15 000 personnes qui vivent et travaillent sur le site. Donc c'est vraiment au cœur de ce département de la Vienne, un poumon économique. C'était vraiment l'idée de départ, créer une activité nouvelle pour créer des emplois nouveaux. Et je pense que le pari est réussi.
Voilà, on termine cette étape ensoleillé, comme vous pouvez le voir. Cette étape, on la termine devant l'hôtel de ville qui est juste là. L'hôtel de ville, c'était le point final d'un vaste projet d'urbanisation de la ville. On était au 19e siècle. Ce projet d'urbanisation, il avait commencé avec l'arrivée du train en 1851, avec la construction de l'hôtel de la préfecture, là où on était pour l'ouverture de cette émission. Sylvain Olivier, ça y est, c'est à vous. Et moi, je vous souhaite la bienvenue à Poitiers.
Voilà, de retour sur le plateau après ces très très belles images. Merci encore. Bonjour Grégoire.
Bonjour Sylvain.
Bon, il fait meilleur aujourd'hui.
Oui, tout à fait. C'est très beau avec la pluie, c'est très beau avec le soleil aussi.
On voulait dire un mot justement pour remercier les protagonistes de ce reportage, notamment Isabelle Soulard, qui est historienne, qui vous a accompagné. Et puis un mot aussi également pour Jérôme Neveu, du Futuroscope.
Exactement. Je crois que c'est important de dire qu'on a été très bien accueillis et très bien accompagnés par Isabelle Soulard.
Je crois d'ailleurs qui
est présente.
Elle est dans la salle.
Qui est juste là.
Voilà.
Donc moi je voulais juste...
Vous pouvez vous lever, on va vous voir à la caméra. Levez-vous.
Ça peut dire.
Merci à vous. C'est toujours très précieux, Madame Soulard, justement quand on va de ville en ville, de trouver des personnes qui incarnent aussi cette passion pour la ville. Et de cela, on vous en remercie vraiment très chaleureusement. Merci.
Et elle a juste été présente avec nous tout l'après-midi, malgré un genou pas très en forme. Et donc, je voulais vraiment insister et la remercier chaleureusement et pour la passion qu'elle nous a transmise sur la ville de Poitiers.
Merci beaucoup, Grégoire. Voilà, on va enchaîner, si vous voulez bien, avec notre entretien avec vous, Madame la maire, Léonore Bonconduit. Bonjour et merci d'être avec nous. On va enchaîner avec cette première question qui est une question éminemment politique. Éminemment politique, puisque on peut déplorer ou pas le fait que nous ayons perdu dans notre pays un plan d'aménagement du territoire avec des grands commissaires au plan. Vous savez qu'on a connu dans le passé comme Lionel Stoléru, qui d'ailleurs était le père d'Emmanuel Wargon, hein, pour le placer, de cette période un peu flamboyante de la Ve République. On sait que le renouvellement urbain, c'est un des piliers de la politique que vous menez ici à Poitiers. C'est à chaque fois une vision à long terme que vous avez, et vous avez ce projet de redynamiser la ville, de lui donner un nouvel angle avec des positions, même des positions bien tranchées, hein, qui parfois, il y a des débats un peu vifs, ça prouve la vitalité de la démocratie, justement. Moi, j'ai envie de vous poser plusieurs questions. La première, c'est quelle est votre vision et quels sont les grands chantiers en cours, emblématiques? Je crois vous êtes déjà sur le quartier des Couronneries, vous êtes sur le centre-ville, vous êtes sur des sites en mutation. Parlez-nous de cette ambition que vous avez depuis que vous êtes aux affaires depuis 2020. Vous avez gagné les élections.
Tout d'abord, merci à vous d'avoir choisi Poitiers pour cette émission. Merci au public pour sa présence et bonjour à toutes et à tous. Et merci pour le reportage que vous avez présenté, qui donne une vision très complète de la ville. Je pense qu'on n'aura pas le temps de parler de tout, mais en tout cas, c'est très complet. Donc, merci beaucoup. Pour répondre à votre question, je vais vous parler de nos chantiers qui permettront d'illustrer l'approche générale de renouvellement urbain que nous défendons. C'est vrai qu'à Poitiers, on ne manque pas de chantiers de renouvellement urbain. Certains sont en cours d'achèvement, certains sont pleinement en cours et certains sont lancé, mais pas encore concrètement décliné. Le premier que je peux mentionner, c'est la fin d'un projet de rénovation urbaine du quartier des Couronneries, qui est le plus grand quartier politique de la ville de Poitiers, dont les dernières opérations sortiront en 2027-2028, et qui a pour objectif d'apporter d'abord du mieux social pour la population du quartier, avec un logement massivement renouvelé, mais aussi des services publics complètement réhabilités. On aura par exemple réhabilité d'ici 2027 toutes les écoles du quartier. Donc ça, c'est une opération qui se termine actuellement par des opérations structurantes. Il y aura par exemple aussi l'implantation de l'École européenne supérieure de l'image, c'est-à-dire qu'on fait venir dans un quartier des étudiants pour aussi diversifier le type de population qui y vit, qui y consomme, qui occupe l'espace public. Et puis on termine actuellement par les opérations de voirie, c'est aussi classique, mais donc les opérations de voirie qui, ici comme sur toute la ville de Poitiers, doivent s'adapter aux nouveaux usages et notamment à un meilleur partage de l'espace public entre la voiture, les vélos, les piétons, les poussettes, enfin voilà. C'est une nouvelle ère des mobilités que nous avons impulsée à Poitiers, ce qui génère parfois du débat. Vous y avez fait
référence. Ce qui a généré notamment aussi, je vais pas revenir sur l'aéroclub, mais bon, voilà, sur les moteurs thermiques,
mobilités du quotidien.
C'est intéressant parce que vous défendez des positions. D'ailleurs, il n'y a pas de débat réellement là-dessus, puisque vous avez fondamentalement raison. Il faut effectivement qu'on ait des centres-villes apaisés avec des mobilités plus douces que vous défendez d'ailleurs.
Oui, voilà. Alors, on nous reproche parfois d'être anti. C'est pas du tout notre approche. Pas du tout mon approche d'être anti quoi que ce soit. Je suis résolument pour un meilleur partage des usages de l'espace public, mais c'est avant tout pour s'adapter à l'évolution des usages. Je veux dire, à Poitiers comme ailleurs, depuis les 5 ans, on va dire, on a un boom des usages du vélo, mais aussi des usages piétons, par exemple. Et donc, il faut impérativement que la ville s'adapte pendant 50 ans, 60 ans.
Mais ça veut pas dire qu'on condamne la voiture. Ça veut dire qu'on l'utilise. On l'utilise différemment.
Oui, et puis que dans les programmes de réaménagement urbain, puisque c'est de ça dont on parle, on intègre dès maintenant un partage de l'espace différent avec, là encore, des priorités bien ciblées. On est bien conscient sur le fait qu'aujourd'hui, à Poitiers, surtout dans une ville moyenne comme Poitiers, tout le monde ne peut pas se passer de sa voiture. Et donc, on priorise notre public cible prioritaire. C'est le public étudiant. Il a été mentionné dans votre reportage, on a 30 000 étudiants à Poitiers. C'est un tiers de notre population.
30 000,
c'est énorme.
Oui.
Et donc, la priorité de ce mandat, c'était de réaménager l'axe en matière de mobilité. C'était de réaménager l'axe entre le centre-ville et le campus avec une piste cyclable de haut standard, des bus renforcés. On a mis en place un système de vélo gratuit pour les étudiants qui s'inscrivent à l'université de Poitiers afin que les étudiants aient un autre choix de mobilité que la voiture individuelle parce qu'eux, ils sont jeunes, ils sont en pleine forme, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de personnes âgées à charge, donc ils peuvent se passer de la voiture. Voilà, j'ai mentionné une opération de renouvellement urbain des couronneries. Je voudrais, si vous permettez, en mentionner deux autres. Il y a le grand projet du palais et de son quartier,
magnifique.
Le palais qu'on voit largement dans votre reportage, qu'on appelle de plus en plus le palais d'Aliénor, puisque Isabelle Soulard l'a mentionné, c'est une reine de France, d'Angleterre, qui a vécu à Poitiers et à qui on doit largement l'aspect du bâtiment tel qu'on le voit aujourd'hui. C'est l'un des édifices civils les plus importants d'Europe, on ne mesure pas, mais c'est vraiment somptueux. Et donc nous portons, la ville de Poitiers est propriétaire de l'édifice depuis 2020, avant c'était le palais de justice depuis la Révolution française, et donc on porte un très large programme de réhabilitation de l'édifice pour le révéler aux yeux des Poitevines et des Poitevins. Il n'avait jamais été fouillé, par exemple, jamais complètement. Créer un nouveau passage au centre-ville en déconstruisant les bâtiments sans valeur patrimoniale autour et en faire à terme un lieu de culture, un lieu citoyen, un lieu dédié aux arts, un lieu touristique aussi avec des restaurants, avec un restaurant et un hôtel, par exemple. Mais on s'intéresse aussi à l'ensemble du quartier du palais, c'est-à-dire tous les cheminements qui vont du musée, là où on se situe, en passant par le palais jusqu'à la gare. Et donc, on a vu dans votre reportage des rues qui sont aujourd'hui des rues jardins. C'est une manière que nous avons de réaménager la ville. On embellit les rues, on partage mieux l'espace public, mais en même temps, on fait en sorte que la ville soit plus adaptée, notamment aux fortes chaleurs qu'on pourrait connaître l'été, donc avec des concepts de rue-jardin, c'est-à-dire qu'on permet à chaque propriétaire, on aide chaque propriétaire à végétaliser sa façade, et donc ça produit des résultats vraiment fabuleux. Il y a beaucoup d'enthousiasme du point de vue de la population pour cette opération-là, et donc à chaque opération d'aménagement urbain est associée un embellissement et une végétalisation de la rue. Et puis un dernier projet qui est en phase d'étude, donc peu perceptible du point de vue des promoteurs, des habitants, c'est la réhabilitation du projet de la gare, du quartier de la gare, pardon. Ça a été mentionné, on a la chance d'avoir à Poitiers une gare qui est à, vous l'avez constaté sans doute, 500 mètres du centre-ville.
Ah oui,
c'est une chance incroyable, alors que des villes comme Poitiers ont pu délocaliser leur gare hors du centre urbain. Là, c'est pas notre cas. Donc il y a une implantation extrêmement favorable, mais pourtant le quartier de la gare, c'est un quartier vieillissant qui se dégrade du point de vue de la qualité de l'habitat, qui présente des opportunités économiques extraordinaires du point de vue de l'implantation, mais qui n'est pas du tout valorisé à ce titre-là aujourd'hui. Et donc pour les 15 prochaines années à venir, un peu moins pour les premières opérations qui vont sortir en 2026, on porte un projet de réhabilitation global du quartier, tant du point de vue mixité des usages, donc habitat, mais aussi équipement culturel,
tertiaire,
par exemple,
bureaux.
Développement d'activités économiques, il y a beaucoup de friches que nous souhaitons requalifier pour favoriser l'accueil d'activités économiques sur ce quartier. Et puis, comme toujours, aussi faire plus de place à la nature en ville. On a une rivière qui coule sous les rails de la gare, la Boivre, un peu comme la Bièvre à Paris. L'objectif, c'est de la remettre à l'air libre pour redonner accès au public à cet espace de verdure au cœur de la ville.
Merci. Olivier Marin.
Oui, justement, pour prolonger dans ces défis de demain, du Poitiers aussi de demain, on le voit avec Sylvain, dans beaucoup de villes, il y a des chartes en fait locales sur la construction, sur le logement. Poitiers à la sienne, cela fait 3 ans que vous avez instauré donc une charte pour un urbanisme résilient, d'engagement, qui a été adoptée donc par la municipalité. L'objectif donc de créer cet engagement entre les maîtres d'ouvrage, donc bien sûr la ville qui intervient sur son territoire pour atteindre un très haut niveau, je cite, de performance sociale, environnementale, architecturale et urbaine. Une charte qui n'a pas de valeur légale, mais qui en fait donne un cap. Ce sont des bonnes pratiques. Il y a eu un séminaire participatif, je crois même qu'il y avait une assemblée citoyenne. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'ambitions à la fois environnementales, avec le recul, parce que cette charte existe depuis 2021. Auriez-vous la même approche aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des réticences? Comment se passe cette co-construction avec cette charte qui, d'ailleurs, dans certaines villes, est un peu contestée? Comment ça se passe ici?
Embarquer les acteurs de la fabrication, c'est-à-dire les promoteurs qui sont un peu à la peine en ce moment avec la crise du logement.
Voilà. Donc effectivement, on a lancé à Poitiers, on l'appelle la charte de l'urbanisme résilient. Résilience, c'est un terme qui nous tient à cœur pour dire qu'on se projette vraiment sur le long terme. Il ne s'agit pas uniquement d'être dans l'exemplarité à l'instant T, mais de faire en sorte que Poitiers soit une ville où il fait bon vivre aujourd'hui, où il fasse encore bon vivre demain. Et donc on a travaillé cette charte d'une manière que nous avons souhaité collaborative dès le début du mandat, avec un certain nombre de promoteurs. Et vous avez raison, c'est pas une obligation légale, c'est avant tout un support de discussion avec les promoteurs qui viennent nous présenter des projets, et ce qui nous permet d'afficher clairement la règle, en fait, pas la règle, mais les principes qui nous tiennent à cœur et les lunettes avec lesquelles on analysera les projets qui nous seront présentés. Et c'est pas une charte uniquement environnementale, les principes environnementaux sont très importants, sur l'exemplarité du bâti, la recherche de matériaux biosourcés, favoriser autant que possible la production d'énergie renouvelable sur les bâtiments, le fait de végétaliser, voire de regagner en surface désartificialisée à l'occasion de certaines opérations. Mais il y a aussi deux autres dimensions qui sont importantes, c'est la concertation ou au moins la bonne information des riverains pour aussi éviter des complications ultérieures, et puis la bonne intégration dans l'environnement urbain, et notamment le fait de favoriser autant que possible les liens sociaux avec et la porosité avec les espaces environnants du quartier. Et donc, cette charte, au début du mandat, elle a produit des effets très positifs en matière de discussion avec les promoteurs.
Donc, tout le monde était d'accord, tout le monde s'est lancé en disant il fallait, c'est-à-dire en sortie de Covid.
Voilà, le contexte a beaucoup joué. C'était un support de discussion très fructueux. Et je dirais qu'en 2021-2022, on avait une réelle écoute de la part des promoteurs et de réelles évolutions dans les projets qui nous étaient proposés. Je reconnais aujourd'hui qu'il est plus difficile de discuter dans un contexte contraint, et c'est pas un reproche, c'est une réalité notamment économique qui fait qu'on peut pas toujours faire le mieux-disant environnemental, par exemple, parce qu'il faut privilégier le fait de pouvoir faire sortir les projets d'un point de vue économique. Je tiens quand même à souligner qu'on a fait une deuxième version de cette charte de l'urbanisme résilient qu'on a votée récemment pour réaffirmer certains principes et qui doivent être autant que possible respectés, même en contexte de difficultés économiques. C'est par exemple le cas sur les énergies renouvelables. On voyait qu'on avait très peu de projets qui sortaient avec la production d'énergie renouvelable. Or, c'est vraiment un défi que le territoire doit relever, pas que les opérateurs privés. On s'astreint à une exemplarité autant que possible sur le sujet. Mais voilà, donc une réaffirmation de cette charte de l'urbanisme résilient comme un support de discussion avec les promoteurs, mais dont on est bien conscient des difficultés et qu'on essaye d'orienter aussi vers des opérations qui correspondent aussi à des besoins sociaux pour la ville de Poitiers.
Et les surfaces demeurent, c'est-à-dire, je voyais dans la charte, en fait, vous demandiez minimum 20 mètres carrés pour un studio en résidence, 28 mètres carrés pour un T1, 45 mètres carrés pour un T2, ça c'est ce que vous demandez au départ, ça c'est quelque chose qui est maintenu?
Oui. Enfin, autant que possible, parce que on peut pas, enfin, comment dire, produire de logements sans s'intéresser à la qualité de l'habitat qui sera offert au Poitevin et au Poitevin, c'est pas intéressant d'un point de vue, en tout cas de mon point de vue de maire. Et c'est aussi pas forcément rendre service aux promoteurs, puisqu'on voit que dans l'immédiat après Covid, beaucoup d'opérations de type résidence étudiante ou habitat senior ont été produites, qui aujourd'hui peinent
à être remplies.
Parce qu'il y a une offre surdimensionnée qui a été produite, mais aussi parce que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Non. Et donc, c'est aussi leur rendre service que d'être exigeant sur la qualité de ce qui sort.
On trouve à se loger facilement à Poitiers?
Ça dépend des publics. Globalement, oui. ça va encore, notamment, y compris du point de vue des étudiants. Il y a des villes où c'est la crise totale du logement étudiant. À Poitiers, ce n'est pas le cas. Enfin, c'est moins le cas qu'ailleurs.
Le logement étudiant est un vrai sujet dans le pays.
Absolument. Mais donc, voilà, Poitiers est régulièrement...
Vous êtes moins impacté.
Et puis, on est régulièrement classé au premier rang des villes où il fait bon étudier, notamment du point de vue de l'accessibilité du logement et des services publics, etc. Donc, ça va encore. Mais voilà, on a des besoins particuliers. Par exemple, nous, ce que nous souhaitons particulièrement continuer à apporter, c'est la production de logements en centre-ville, donc des logements majoritairement de la rénovation, parce qu'on a besoin de maintenir des...
De revitaliser le centre-ville,
mais aussi de maintenir une typologie de mixité de type de famille, par exemple, en centre-ville, des grands appartements. On a besoin de grands appartements en centre-ville, on a besoin de mixité sociale en centre-ville, donc la production de logements sociaux est importante. Mais voilà,
le pourcentage de logements sociaux sur la...
40%.
Alors, vous avez évoqué la transition écologique et environnementale, qui est un vrai sujet aussi, qui touche bien évidemment les villes. Vous êtes plutôt écologique, j'allais dire, par bien des aspects. Donc, vous êtes implanté dans un territoire qui est clairement engagé sur cette transition. Il y a bien sûr le plan climat et énergie territoriale qui a été lancé par le Grand Poitiers, dont vous êtes également la vice-présidente, ou encore le plan Canopée, lancé par le Grand Poitiers également. Et la ville est très engagée sur le thème. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez justement toute cette vision que vous avez de cette sobriété foncière, de consommation des ressources, d'urbanisme résilient. C'est de plus en plus, avec Olivier, on le voit d'ailleurs de ville en ville, un axe de développement qui est carrément dans la shortlist un petit peu des demandes des élus locaux. La réintroduction, par exemple, d'une biodiversité beaucoup plus vertueuse, beaucoup plus saine. C'est un paradoxe d'ailleurs quand on voit, par exemple, que la pollinisation, par exemple, où les abeilles se portent beaucoup mieux en ville avec une biodiversité, parce que justement les pesticides ou les produits ne sont pas légion dans ces villes-là. Et on voit finalement comment la ville, et c'est vraiment un paradoxe, va devenir un allié objectif de la réintroduction de cette vue de la nature, de la perspective.
Effectivement, c'est un thème extrêmement vaste sur les enjeux climatiques,
extrêmement intéressant.
Et puis, non, mais qui surtout, qui dit politique écologique, dit que ça se décline dans l'ensemble des politiques publiques en réalité, et que c'est pas cantonné à une politique qui serait étiquette environnement, et puis tout le reste, on ne s'en suffit pas. Donc, c'est vraiment une approche globale qui irrigue toute notre approche des politiques publiques sur la question climatique. C'est important, je me permets de rappeler qu'on s'inscrit vraiment dans deux dimensions. D'abord, la question de la lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire autant que possible réduire notre impact carbone, mais aussi l'adaptation au changement climatique. Et il y a une tribune qui va prochainement sortir avec de nombreux élus locaux qui appellent à ce que nous soyons plus accompagnés sur l'adaptation de nos territoires au changement climatique. Et par exemple, les inondations très récentes dans certaines communes, Poitiers n'en fait pas partie, mais montrent combien on doit s'adapter aujourd'hui. Donc on se situe vraiment dans ces deux dimensions-là. Pour ce qui concerne la réduction de notre impact carbone, la mobilité, c'est une priorité. On a un plan climat air énergie qui montre que plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre du territoire, c'est la mobilité. Donc j'ai mentionné la priorité que nous accordons aux alternatives à la voiture individuelle, en particulier pour le public étudiant. On ambitionne un quart de report modal d'ici dans les prochaines années pour les étudiants, depuis la voiture individuelle vers le bus, le vélo. C'est un public prioritaire qu'on assume. On travaille aussi de manière générale sur le renforcement de l'offre de bus. On a lancé un système de trottinettes et de vélos en libre accès qui n'existait pas à Poitiers, enfin en libre service qui n'existait pas à Poitiers avant. Donc c'est la question des mobilités qui mobilise beaucoup de notre énergie, avec des questions d'accompagnement des usages, mais aussi d'aménagement urbain qui sont nécessaires et qui sont très coûteux pour encourager la pratique. Et puis, du point de vue de l'adaptation, on en a rapidement parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment la question de la végétalisation de la ville qui marche le mieux pour ce que nous portons. Ça se décline dans l'aménagement différent des rues, avec une place plus grande laissée à la végétalisation. Ça se décline par une plantation massive d'arbres, plus de 30 000 arbres plantés depuis le début du mandat dans des forêts urbaines, mais aussi dans les cheminements du quotidien. Et puis, ça se décline aussi, par exemple, par la végétalisation des cours d'école, qui a des atouts techniques du point de vue fraîcheur, mais aussi pédagogique, pour inciter les enfants à sortir, à être en contact avec la biodiversité dès le plus jeune âge. C'est vraiment un point fort à Poitiers sur l'éducation nature. On est assez reconnus en cette matière-là. Et c'est aussi, j'en suis convaincue, ce que recherchent les familles qui arrivent à Poitiers, c'est d'avoir cette dimension intégrée dès le plus jeune âge, même dès les crèches, on y pense aussi, pour les enfants.
Et évidemment aussi sur l'énergie renouvelable. Je crois que vous allez faire beaucoup de choses, notamment sur l'électrique, développer des circuits d'approvisionnement d'énergie renouvelable. Vous avez d'ailleurs, je crois, mais c'est le Grand Poitiers, souscrit un contrat qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2025. Hein, c'est bien ça, sur l'électricité consommée qui sera verte, de plus en plus verte. Il y a un accompagnement aussi pour les habitants, pour ceux qui sont tentés par l'idée d'installer des panneaux photovoltaïques sur leur toit. Là, il y a tout un accompagnement, il y a une prise de conscience, est-ce que c'est vraiment suivi? Est-ce que c'est écouté et suivi? Il y a une volonté politique, mais est-ce que derrière, ça suit?
Autant que possible, oui. Alors, par rapport à ce que vous mentionnez, depuis le début du mandat, on est passé en 100% électricité verte. Ouais, donc, on n'a pas attendu 2025. C'est difficile de maintenir cette exemplarité dans les temps économiques qui courent, l'inflation des prix de l'énergie, etc. Mais on est, voilà, comment demander aux citoyens d'être exemplaires si nous-mêmes on ne l'est pas? Donc, on tient bon là-dessus. Sur le développement d'énergie renouvelable, oui. Alors, Grand Poitiers est en pointe, notamment du point de vue de son réseau de chaleur. Un réseau de chaleur urbain qui est le plus étendu de Nouvelle-Aquitaine et sur lequel on a un territoire pionnier depuis longtemps. Et donc on en est très fiers et on continue à l'étendre. Et d'ici la fin de cette mandature, le réseau de chaleur permettra d'approvisionner l'ensemble des quartiers politiques de la ville. Et donc ça allie performance énergétique, énergie renouvelable et dimension sociale en garantissant notamment une stabilité des coûts de l'énergie pour les logements sociaux. Donc, parce que quand on pense renouvelable, on pense souvent éolienne ou photovoltaïque, on ne pense pas forcément aux autres énergies. Or, à Grand Poitiers, on intègre l'ensemble des dimensions du mix énergétique. Sur le développement des énergies renouvelables, eh bien, nous-mêmes, on porte une ambition de patrimoine municipal à énergie positive, c'est-à-dire qu'on essaie d'être exemplaire dans chacune des opérations qu'on porte. Pour ce qui concerne le soutien à des projets, aux projets des particuliers, on les accompagne en ingénierie autant que possible. On a un point info énergie à Grand Poitiers qui permettent d'accompagner via différentes aides, par exemple. Et on a un enjeu majeur sur lequel je souhaite avancer, c'est le fait de pouvoir montrer que toute la ville peut être concernée par l'engagement dans les énergies renouvelables, y compris ce qu'on appelle le périmètre préservé, le centre-ville. J'aimerais qu'on puisse démontrer qu'on peut vivre avec son temps, c'est-à-dire implanter des énergies renouvelables, y compris, par exemple, on a des ardoises photovoltaïques qui sont très bien intégrées dans l'environnement urbain aujourd'hui, et montrer qu'on peut concilier préservation du patrimoine historique, de la ville dans sa dimension historique et belle, quoi, mais en même temps vivre avec son temps et donc implanter du renouvelable en périmètre préservé.
Alors, il nous reste deux questions très rapides et on va enchaîner. C'est la question que vous avez placée en priorité, puisque bien évidemment, vous avez la chance d'avoir une démographie positive. Vous gagnez des habitants, même si on n'a pas des statistiques fiables, vous l'avez rappelé, puisque l'INSEE a du mal à se mettre au diapason de l'arrêté. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous êtes sur une démographie positive. C'est à une encablure de Paris.
Oui.
Clairement, c'est un territoire qui est un territoire attractif, qui est un très beau territoire. On est à un peu plus d'une heure trente par la LGV. Vous avez effectivement bénéficié de ce mouvement incroyable post-Covid qui a amené les populations à même si on est beaucoup, on sont un peu revenus, mais voilà, ça reste quand même. Par contre, le logement est une priorité, et je sais que vous en avez fait une priorité, notamment sur le logement insalubre. Vous avez une position extrêmement claire, et je salue cette position, puisque il n'y a pas plus indécent que de proposer aujourd'hui sur le marché des logements insalubres. Il y a une guerre qui avait mené à l'époque, en 100 ans, Julien de Normandie, en pénalisant, vous savez, les marchands de sommeil. C'est pas le cas à Poitiers, puisque vous n'êtes pas sur des territoires ultra contraints. Le programme du logement d'abord que vous avez mis en place, et notamment les loyers, les construire des logements à loyer maîtrisé. Sauf que les promoteurs en ont pris plein la gueule. C'est le moins qu'on puisse dire, avec la hausse des matériaux, le coût prohibitif du foncier, parfois un coût prohibitif public, faut le dire, faut l'assumer, qu'il n'y a pas forcément là. Et donc, c'est pas évident pour un promoteur de se voir entendre, si vous voulez, de se dire, avec les élus locaux, vous devez sortir une opération à temps, alors que lui-même est contraint par un bilan de promotion qui est quand même difficile. Et donc, c'est important d'essayer de trouver les adéquations bonnes. Vous avez besoin des promoteurs. Vous avez besoin du secteur privé. Et enfin, avec Olivier Marin, on se posait la question de l'investissement locatif. Je voudrais qu'on globalise ces deux questions. Olivier, tu te posais la question de l'investissement
locatif. Absolument, puisqu'en fait, Le Figaro a sorti un palmarès des villes où investir dans un studio à mettre en location. C'était il y a une semaine.
Exact.
126 villes ont été comparées sur la base de plusieurs critères, à la fois sur les logements vacants, les logements étudiants, le prix au mètre carré d'un studio, le loyer, le rendement annuel brut. Sur 126 villes, en quelle position arrive Poitiers?
Ah.
Selon vous, ce que vous avez vu,
c'est bon,
ce palmarès du Figaro.
Hein. Alors, je l'ai vu passer, mais je me souviens plus.
Il adore ça, Olivier.
12e. Moi, je dis bravo.
C'est incroyable.
12e.
Vous êtes dans le tiers cette
12e, vous êtes absolument sur.
Quasiment dans le tiers cette.
Voilà, on peut citer, c'est la ville de Brest
qui arrive.
Première position, mais en tout cas, 12e place sur 126 pour Poitiers, ça vous étonne?
Avec une vraie attractivité.
Oui, oui, non, ça m'étonne que Brest soit en premier, mais parce que, comme quoi, les questions de mobilité sont importantes, mais ne sont pas les seules à considérer. Donc, les questions de connexion au territoire. Mais non, c'est une vraie reconnaissance aussi pour notre territoire qui effectivement, vous l'avez rappelé, est extrêmement bien situé. On est même à 1h15 de Paris, 1h15 de Bordeaux. Donc on a de plus en plus de personnes qui font le choix d'habiter à Poitiers et de travailler à Paris ou à Bordeaux, avec le télétravail qui se développe par
ailleurs. On l'a rappelé dans le reportage.
Oui.
Vous n'avez pas l'attractivité que vous méritez.
Oui, alors après, on reste prudent, si vous voulez, ça nous va bien.
Non, mais c'est pour ça que. Non, mais en même temps, c'est pour ça qu'on est venu vous voir, c'est-à-dire pour mettre un peu plus de lumière, mais c'est vrai, ce que vous dites, vous êtes à 1h15 de Paris, 1h15 de Bordeaux.
Voilà, et donc il y a beaucoup, beaucoup de familles, on est content d'accueillir des familles avec des enfants notamment. Alors Poitiers n'a pas une vieille population globalement, enfin on n'a pas du tout.
50% moins de 30 ans.
Voilà, c'est ça, donc on n'est pas.
La plus étudiante de France.
Voilà, en termes de ratio sur la population globale.
En termes de ratio, c'est la ville la plus étudiante de France,
voilà,
en termes de
ratio.
Avec La Rochelle.
Mais vous avez raison, en fait. Qui dit venu de nouvelles populations, nous sommes extrêmement heureux d'accueillir des populations qui viennent de plus grandes villes et qui recherchent la qualité de vie d'une ville moyenne où il y a des services de proximité de qualité. On aurait pu parler des services publics, mais globalement, on a une offre de services de qualité à Poitiers. Mais c'est tout aussi important pour moi et pour nous de maintenir une mixité dans tous les quartiers de la ville. C'est pour ça qu'on a tendance à batailler avec les promoteurs sur la question des loyers de sortie. Vous le mentionnez, il faut
quand même avoir
une idée des ordres de grandeur. À Poitiers, avant le Covid, on était sur un T2-9 à 3 200 euros du mètre carré. Aujourd'hui, on est plutôt à 4 000 euros et encore parfois plus. C'est un terme d'ordre de grandeur, c'est très important. Et donc, on essaye ensemble d'atterrir à des prix de sortie plutôt à 3 500, qui nous semble raisonnable pour maintenir, pour ne pas exclure une partie de population, notamment de ce qu'on appelle le plateau, le centre-ville historique.
C'est d'ailleurs un sujet dont on va débattre, si vous voulez bien, tout à l'heure. Et j'aimerais avoir votre réaction avec justement une marque qui est aujourd'hui le leader du logement abordable en France, c'est la marque Dexity. Et on a un de ses représentants qui est un grand monsieur de l'immobilier qui connaît très très bien le secteur, c'est Amaury Vallée. Justement, on en parlera, puisqu'effectivement, vous le savez, que les promoteurs aujourd'hui vivent des contraintes qui sont très dures économiquement, bien évidemment, parce que le marché s'est carrément rétréci de moitié.
On a des opérations qui ont été engagées il y a quelques années, qui n'arrivent pas à sortir. On a 20 permis de construire
Absolument.
Qui ont été accordés, mais dont les travaux n'ont pas démarré, faute de modèle économique.
Je peux vous dire, moi, ça fait 40 ans que je suis dans ce domaine, et je peux vous dire que je ne l'ai jamais vu, ça. Ça reste absolument incroyable. Je vous propose, madame la maire, d'enchaîner avec, justement, vous avez parlé de la rénovation énergétique, de la transition environnementale. On va commencer, justement, une fois n'est pas coutume, avec Elio. On va parler justement de rénovation énergétique. Dans quelques instants, on va recevoir Pauline Courbet-Dubos, qui est responsable des affaires publiques de Elio, qui est un acteur également national, spécialiste de la rénovation énergétique. Ne zappez pas, on se retrouve dans quelques instants.
Les clés de la ville, bien mieux avec Elio.
Mais oui, on est bien mieux ici, à Poitiers. D'ailleurs, il va peut-être falloir que je change aussi. Je le fais à chaque fois parce que je trouve qu'on a dans notre pays de très jolies villes. Léonore Monconduit, c'est vraiment génial. Nous, on a un métier franchement très sympa parce qu'on a la chance de rencontrer justement des élus locaux. On adore les élus locaux. Il faut défendre les élus locaux. Vous êtes les seuls qui êtes à même de fabriquer le territoire puisque vous êtes les seuls élus de la République en contact direct avec les personnes que vous défendez. Et ça, c'est important qu'on mette la lumière sur vous. Moi, je vous propose qu'on applaudisse Léonore Monconduit. Parce que c'est pas neutre, Madame la maire, c'est pas neutre, parce que c'est aussi un engagement, c'est presque un sacrifice, un sacerdoce, une vocation de vous engager sur les chemins de la politique. Et je peux vous dire qu'en ce moment, c'est pas simple. Bonjour, Pauline.
Sylvain.
Comment ça va?
Ça va et vous?
On est ravis de vous recevoir. Pauline Courbet-Dubos, je rappelle que vous êtes responsable des affaires publiques d'Elio, spécialiste de la rénovation énergétique. Je vous propose, comme il est d'usage, de répondre aux questions de notre ami Olivier Marin.
Bonjour Pauline, très heureux de vous retrouver ici à Poitiers. Alors Poitiers, on va l'évoquer bien sûr dans un deuxième temps. À la fois, vous allez nous éclairer sur les logements, le DPE, les différents classements. Mais tout d'abord, c'est au niveau national. On est très intéressé à la fois par les DPE, MaPrimeRénov'. ça devient de plus en plus compliqué. On a l'impression qu'il y a des projets qui sont en mode pause, à l'arrêt.
Surtout en ce moment.
Où en est-on aujourd'hui, si l'on devait faire une synthèse sur les dernières réglementations en matière de rénovation énergétique, Pauline ?
Alors, de rénovation énergétique, on a déjà une copie du gouvernement pour le projet de loi de finances 2025. Donc, il y a vraiment un budget de rigueur qui demande un effort global de 60 milliards d'euros. Et au niveau de la transition énergétique et des mesures d'efficacité énergétique, ça se traduit d'une part par une augmentation des crédits de la mission écologie, quand même, il faut le noter, de 2,8 milliards d'euros. Mais dans le même temps, par exemple, on a un fort rabot de la dotation du fonds vert,
et oui.
qui est un fonds qui a été créé en 2022 et qui, justement, est destiné à aider les collectivités locales à aller au bout, à mener à bien leurs projets de
là, il y a un impact direct.
En fait. Ah oui, bien
direct.
Direct, oui,
bien. C'est pratiquement 60% de réduction.
Donc 60%.
Ouais.
On a des chiffres. C'est passé de combien à combien ?
On est passé de 1,5 milliard à 1 milliard.
Ah la vache.
Enfin, 2,5 milliards, pardon, oui, à 1 milliard.
C'est énorme. Oui,
oui, énorme, pour le coup. Et côté MaPrimeRénov', parce qu'on a une année 2024 quand même très très riche au niveau des évolutions réglementaires sur le sujet. Donc on a, a priori, parce qu'on parle de la copie du gouvernement avant la navette parlementaire, une pérennisation du dispositif tel qu'entré en vigueur au 15 mai 2024, avec donc de la rénovation par geste et de la rénovation d'ampleur, et une dotation de 2,3 milliards d'euros, donc c'est-à-dire une baisse annoncée de 700 millions d'euros. Alors même que les objectifs de rénovation du secrétariat général à la planification écologique sont quand même assez ambitieux, c'est-à-dire qu'on a à peu près 700 000 rénovations par geste et 315 000 rénovations d'ampleur.
Beaucoup de propriétaires bailleurs, mais aussi des locataires, se posent la question. Il était question dans le calendrier qu'au 1er janvier 2025, les logements les plus énergivores, ceux qui sont classés G, soient interdits à la location au 1er janvier 2025, c'est-à-dire demain matin.
Oui.
On entend, on va revoir le calendrier, on parle de copropriété, de maisons.
C'est ce qu'a dit Michel Barnier dans son discours de politique générale, de revoir ou d'assouplir
le
calendrier de rénovation.
Qu'est-ce que ça veut dire, Pauline, adapter le calendrier ?
Alors, adapter le calendrier. Bon, déjà, donc ça, c'est une mesure de la loi climat et résilience qui date de 2021. Donc, ça fait longtemps qu'on entend parler de ces interdictions à location. Et on a désormais une ministre de plein exercice, qui est Valérie Létard, qui a en charge la rénovation urbaine
et le logement.
Et qui, elle, entend assouplir et peut-être aménager ce calendrier pour donc les logements les plus énergivores en copropriété, donc
pour
c'est-à-dire les classes G en copropriété,
ouais.
À condition qu'un plan pluriannuel de travaux soit voté. C'est à peu près l'état des dernières annonces en la matière qui sont
donc
très
si la copropriété n'a pas fait le PPT, donc le plan pluriannuel de travaux,
elle sera soumise à l'interdiction.
Elle sera soumise à l'interdiction.
Voilà.
C'est catastrophique.
Parce
que
oui.
Le nombre, voilà, vous avez compris pourquoi je vous pose cette question, c'est catastrophique.
Parce que très peu
ont signé un PPT, quoi.
Très peu ont signé un PPT, il y a quand même pas mal de logements...
Moins de 8000 l'an dernier.
...considérés comme passoires énergétiques, et on est en pleine crise du logement, donc ça veut dire que ça va évidemment venir confisquer une partie des logements, notamment destinés au parc locatif.
Il y a combien d'appartements, logements collectifs, pour notre public, logement collectif, c'est les immeubles où il y a une copropriété, versus maison individuelle, bien évidemment. Combien il y a d'appartements, étiquette G, sur le marché locatif, Pauline ? On avait estimé juste sur Paris qu'il y avait à peu près 25%
près de 30%.
Je peux vous dire à Poitiers, mais je peux pas vous dire pour la France.
Au niveau national, mais c'est énorme. Donc ça va être une vraie galère au 1er janvier.
Madame la maire, une réaction par rapport justement à cette histoire de calendrier de rénovation énergétique, de copropriété, comment vous voyez les choses ?
Une réaction spontanée, c'est de
déjà
dire...
sur le fond vert.
Oui, alors sur le fond vert, effectivement, enfin...
Une cata.
Mais c'est pas... Il y avait que ça, voilà. Mais non, c'est surtout que moi, je suis favorable à une exigence forte en matière de rénovation, notamment thermique des logements. Néanmoins, là, la politique gouvernementale donne une double injonction aux propriétaires, en fait, c'est-à-dire une injonction de l'exigence, mais sans donner les moyens d'accompagnement
exactement.
Qui vont avec.
C'est tout à fait ça.
Et ça, c'est, voilà, c'est contre-productif, puisqu'on soumet des gens à des obligations qu'ils sont difficilement en mesure de respecter, et qui, in fine, dont les conséquences négatives sont soit sur les locataires s'ils restent dans les logements, soit carrément sur le recul du nombre de logements disponibles
mais
dans les
villes. Mais vous seriez favorable à ne pas toucher au calendrier de cette rénovation énergétique, de laisser en l'état ce qui était prévu au 1er janvier ou pas ?
Concrètement, faudrait-il proroger cette interdiction, quoi. Enfin, proroger le seuil de l'interdiction. Est-ce que vous diriez, voilà, on vous laisse 2 ans pour rebondir
Sur les F, notamment, en 2028
Ça, je ne me prononcerai pas sur la question du calendrier, mais on aura beau repousser le calendrier. Si on n'a pas les moyens d'accompagnement qui vont avec pour les propriétaires, ça ne fonctionnera pas dans 3 ans non plus. Donc, je suis pour des politiques publiques réalistes, avec des ambitions exigeantes, y compris en termes de deadline, mais par contre, il faut ne pas baisser les moyens alloués.
C'est terriblement efficace.
Oui, il faut réussir à combiner les deux, en fait. C'est-à-dire ambition écologique et faisabilité et réalité du territoire. Mais vous êtes plutôt bien loti, pour le coup, à Poitiers, parce que
alors
vous
justement.
Avez à peu près 10% de logements considérés comme des passoires énergétiques, c'est-à-dire F et G.
10% seulement.
Seulement, et la moyenne française est plutôt aux alentours de 17%.
D'accord.
Donc, et seulement 4% en G. Pour, évidemment, les logements qui ont des DPE, mais c'est quand même plutôt bien.
Donc, ça veut dire que Poitiers, outre le fait que c'est une des villes les plus agréables, selon le palmarès Figaro, est aussi exemplaire d'un point de vue énergétique, Pauline ?
En tout cas, il y a des mesures qui portent leurs fruits.
Sur toutes les villes qu'on a faites ensemble, effectivement.
Oui, oui, c'est plutôt une des.
Oui.
Et je pense, je peux me tromper, mais je pense que les logements en G qui restent sont situés, me semble-t-il, sur les quartiers où on est en train de faire des opérations d'aménagement, notamment. je veux dire, on voit que lorsqu'on prend en charge des opérations d'aménagement urbain ambitieux, je parlais du lien centre-ville-campus et le quartier du Pont-Neuf ici, donc il y avait beaucoup de logements dégradés, notamment le logement étudiant, on voit que ça génère des opérations de réhabilitation et c'est tant mieux. Le quartier de la gare, très clairement, il y a beaucoup de logements dégradés aujourd'hui et je suis convaincue que d'ici 10 ans, ça aura été résorbé, ne serait-ce que par un environnement urbain amélioré.
56 000 logements donc à Poitiers, 70% d'appartements, 68% d'occupants locataires. Et la ville de Poitiers, donc on le voit avec vous, Pauline, notamment, qui est plutôt performant par rapport à la moyenne en France. Peu de passoires thermiques, entre guillemets, il y en a toujours trop, mais il faudra les éradiquer. Vous faites régulièrement des cas concrets de rénovation chez Elio, aussi c'est la transparence. Premier exemple, vous avez accompagné une copropriété qui est boulevard Pont Achard, à Poitiers. Pauline.
Tout à fait. Donc c'est 36 logements, une surface habitable de 1 800 m², avec un système de chauffage initial de gaz collectif et un DPE avant travaux F.
Ah
oui. Il y a différents gestes d'isolation qui ont été faits, donc une isolation thermique par l'extérieur, les planchers bas, les toitures terrasses, l'installation d'une VMC simple flux et le traitement des ébrasements de menuiserie extérieure. Donc tout ça, c'est un montant de travaux à l'échelle de la copropriété de un petit peu moins de 430 000 euros hors taxes. Et pour faire baisser le reste à charge de ces travaux, on est venu flécher les aides, donc les C2E, les certificats d'économie d'énergie et MaPrimeRénov copropriété, à hauteur de un petit peu plus de 191 000 euros. Donc, c'est-à-dire pratiquement 45% de financement pour faire baisser ce reste à charge et donc arriver à une étiquette D après travaux et un gain énergétique de 48%.
Et ce qui donne sur le reste à charge une moyenne d'environ 10 à 15 000 euros par copropriétaire.
C'est un total de 237 000 euros, pareil, hors taxe, à diviser, à répartir entre
absolument.
Les 30 kilos.
À répartir, donc du coup, finalement, plus facilement pris en charge par des banques sur un court, moyen ou long terme.
Oui.
Et surtout, le gain sur la valeur de l'actif.
Bien évidemment,
c'est important. Je crois que l'équivalent, vous nous aviez dit l'autre fois, je crois qu'on peut avoir des décotes qui peuvent aller jusqu'à 20 ou 25% sur le plan énergétique,
oui.
Donc il n'y a pas photo. C'est-à-dire que, parce que c'est bien de parler de transition énergétique de la planète, mais c'est aussi bien de l'allier avec le portefeuille des Français, le pouvoir d'achat.
Concret, oui.
Voilà, ça c'est clair. Si je peux avoir pouvoir d'achat et sauver la planète, je suis content. Voilà.
C'est toujours l'équilibre entre la prise de conscience écologique, c'est le sens de l'histoire, on y va, et puis réalité économique. Deuxième cas concret, Pauline, alors là, c'est une maison individuelle à Poitiers.
Tout à fait. Donc on parle d'un ménage jaune, donc ça c'est pour les dispositifs MaPrimeRénov. On parle d'un ménage aux revenus modestes, qui est composé donc d'un couple et d'un enfant, pour une maison individuelle de 100 m² et un système de chauffage donc qui mixe le bois et l'électricité. On a un DPE avant travaux à G, Donc on est absolument dans un cas de passoire thermique.
Juste rappeler ménage jaune, qu'est-ce que c'est ?
C'est revenu modeste.
Voilà.
Et donc, on a préconisé des travaux d'isolation de comble, une mise en place de PAC, RR, et la mise en place d'un chauffe-eau pour arriver à un montant de travaux de pratiquement 34 000 euros. Un fléchage d'aide, donc confondu MaPrimeRénov' et C2E, à pratiquement 23 000 euros, donc en fait les deux tiers, et pour un gain énergétique de 77% et un DPE B post-travaux.
Très bien. Et on peut dire un mot qu'Elio connaît parfaitement Poitiers pour une raison.
Oui, pour une raison, c'est que Elio est implanté donc depuis plus de 20 ans par le biais de sa filiale Akea Énergie, qui est le bureau d'études spécialisé dans la maîtrise de l'énergie et qui est à Poitiers depuis plus de 20 ans.
Merci beaucoup. Merci Pauline.
Très intéressant. Bravo Pauline. Vous restez avec nous, Pauline, justement. On va enchaîner sur la prochaine séquence. Merci pour toutes ces précisions. Moi, je vous propose, Madame la Maire, qu'on reçoive justement les notaires qui vont nous donner une vision très précise sur le bâtiment ancien, sur l'ancien. Une interview qui va être menée par notre ami Olivier Marin. C'est tout de suite après ça.
Les clés de la ville, parlons bien, avec le Conseil supérieur du notariat.
Après, parlons mieux, bien mieux. On va dire, parlons bien, voilà, avec Olivier Marin sur le plateau des clés de la ville dans notre bonne vieille ville de Poitiers, bien sûr accompagné de notre hôtesse qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Elle est maire depuis 2020 de Poitiers, c'est Léonore Monconduit, merci de nous accueillir. Changez rien, vous êtes proche de la perfection, madame la maire. Merci en tout cas d'être avec nous. Oh, on fait de la radio après tout, donc on est là pour vous attendre également. Et on cherchait un notaire, un super notaire de la ville pour nous montrer. On l'a trouvé. Oui. Il est sur le plateau. C'est Maître Tona Duburc. Bonjour. Comment
bonjour
ça
monsieur
va?
Ça va très bien.
Voilà, quelle élégance.
Merci.
Ça fait toujours plaisir de recevoir des notaires sur le plateau.
Merci.
Merci en tout cas. On va parler de l'habitat ancien. Vous avez la parole, Olivier Marin.
Oui, évidemment. Bien sûr, on va faire avec vous mettre un tour d'horizon de cet immobilier ancien, l'évolution des prix, des ventes. Quelques chiffres clés déjà pour démarrer. 2170. Comme 2170 euros, ça c'est le prix médian au mètre carré d'un appartement ancien à Poitiers. Alors c'est une baisse qu'on retrouve un petit peu partout en France. On est entre -2, -2,5% sur un an. Mais quand on regarde dans le rétroviseur, depuis 5 ans, les prix avaient progressé à Poitiers de 35%, ce qui est quand même important.
C'est-à-dire qu'on achetait à 1500 euros du mètre carré quasiment.
Absolument, et oui, le maître va nous le dire. Incroyable. 175 000, ça c'est le prix de vente médian d'une maison ancienne à Poitiers, -5% sur un an, mais là aussi, quand on regarde en arrière, il y a 5 ans, on est à déjà +20% des prix qui ont progressé. Maître, vous allez nous décrire ce marché immobilier à Poitiers, mais tout d'abord, est-ce que l'activité redémarre un peu ici à Poitiers?
Oui, je crois qu'elle est un peu comme partout en France actuellement. On constate depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, mais surtout depuis quelques semaines, pour être honnête, après l'été, de nouveau des dossiers qui rentrent dans nos études et on constate en fait une clientèle qui se remet à faire des acquisitions. Il y a une raison qui est assez simple, c'est que les taux ont bien baissé et qu'aujourd'hui, on recommence à avoir des gens qui empruntent sur 20 ans avec
clairement,
des taux...
Clairement, depuis que les banques reprêtent,
oui, clairement,
ça repart.
On le revoit.
On voit bien. Hein,
on le revoit. Absolument. On avait toujours un fonds d'investisseurs avant que les taux baissent, pour être sincère. On était plus sur des gens qui investissaient du patrimoine déjà acquis par le passé, des fonds à replacer dans l'immobilier. On est de nouveau dans une perspective dans laquelle les gens empruntent pour de nouveau acheter. Et ça, c'est assez encourageant pour l'avenir.
Alors, la spécificité de ce marché immobilier à Poitiers, si l'on devait prendre une photo, nous expliquer un peu le type de clientèle, les quartiers porteurs, maître.
Alors, les quartiers porteurs, je crois que Poitiers est porteur un peu partout, déjà pour commencer. C'est une ville, comme vous l'avez dit, qui est extrêmement attractive. On a plusieurs quartiers qui se démarquent un peu, honnêtement, depuis le Covid. Moi, je suis assez partisan d'un quartier qu'on appelle le quartier des Rocs, qui est de l'autre côté de la gare, qui est un quartier qui a été complètement rénové par une clientèle qui est arrivée, qui a repris des maisons, qui a refait vivre ce quartier, honnêtement, qui est un quartier vraiment sympa. Je vous invite à aller le voir. On a le quartier du centre-ville de Poitiers, sur lequel, pour le coup, historiquement, on a une clientèle avec peut-être un pouvoir d'achat un peu plus important, qui a repris des immeubles, qui les a rénovés. Et puis après, on a tout le quartier de la fac, qui est aussi un quartier qu'il ne faut pas du tout ignorer, sur lequel on a beaucoup de demandes de location, avec la fac évidemment. Bref, tous les quartiers sont assez porteurs actuellement.
On peut faire un placement patrimonial sécurisé à Poitiers?
Ah oui, Clairement. Et beaucoup l'ont compris depuis quelques années maintenant, parce que vous venez de le dire.
Avec quel taux de rentabilité ?
Écoutez, ça dépend des quartiers, pour être sincère, et puis ça dépend du bien. La rentabilité, ça dépend vraiment du bien que vous allez acheter. Beaucoup de gens l'ont compris parce qu'on était quand même à Poitiers sur un immobilier pas cher. Je crois qu'on l'est toujours, d'ailleurs, pas cher. Et c'est aussi une des qualités de cette ville, c'est qu'on arrive
à se loger bien. Souvent, le volume, le prix au mètre carré est toujours corrélé par le taux de la rentabilité.
Alors, si
s'il y avait de taux, très bonnes rentabilités, le prix...
Si vous voulez un taux qui va vous paraître assez extraordinaire pour des gens qui viennent de Paris, mais on est sur une rentabilité entre 6 et 8% sur l'ancien.
6 à 8%
oui, sur l'ancien.
Brut.
Oui. Oui, oui, tout à fait.
Oui. Ouais, c'est ce qui est dans le Figaro. C'est...
Mais est-ce qu'il y a une profondeur de marché, je veux dire est-ce qu'on est sûr, quand on achète un appartement, pour un investisseur qui va louer un T2, par exemple,
oui.
Très bien placé en ville, est-ce qu'il est sûr d'avoir un marché locatif ?
On a une demande qui est continue, pour être sincère. On a une demande qui est continue sur, justement, le T2, sur les petites superficies. Aujourd'hui, j'entendais Madame le maire tout à l'heure qui disait qu'effectivement, beaucoup de constructions ont eu lieu depuis quelques années sur Poitiers, pour notamment les étudiants, mais on en manque encore. Aujourd'hui, sur le centre-ville, et j'étais ravi d'entendre que le centre-ville, a priori, est privilégié par Madame le maire pour ce genre d'investissement, c'est que on a aujourd'hui une demande assez considérable de parents qui cherchent des petits logements pour leurs étudiants qui souhaitent être en ville, parce que notre ville, évidemment, dans le centre-ville, est extrêmement attractive pour les étudiants, bah, par exemple, pour le soir, les choses comme ça, et puis pour la fac. En tout cas, on a aujourd'hui des gens qui viennent investir honnêtement un peu de partout pour justement avoir la certitude d'avoir des biens immobiliers qui soient loués toute l'année.
Le poids des Parisiens aussi, quel est-il ? Est-ce qu'il est de plus en plus important ? Est-ce qu'il y a...
Alors, je ne sais pas s'il est de plus en plus important. En tout cas, depuis le Covid, il a pris de la place. C'est une certitude. Oui. On a beaucoup, beaucoup de clients qui sont arrivés sur Poitiers. Alors, j'ai en tête un couple de Parisiens qui est arrivé de cette ville, juste au moment du Covid, qui s'est rendu compte que finalement, à Poitiers, on pouvait très bien y travailler et faire des allers-retours à Paris deux ou trois fois par semaine avec un TGV qui prend une heure et quart pour y aller.
Oui.
Avec des enfants qui sont dans des écoles super en centre-ville, dans lesquelles les enfants, à partir d'un certain âge, peuvent y aller à pied. Et puis, avec une qualité de vie qui est formidable. Et puis, des maisons beaucoup moins chères qu'à Paris.
Et vous constatez que finalement, que les métropolitains parisiens sont de plus en plus nombreux, ont cette appétence, justement,
alors,
avec l'université, les écoles, la proximité.
Les Parisiens qui viennent s'installer à Poitiers, je ne sais pas si on en voit toujours beaucoup qui arrivent, pour être sincère. Beaucoup sont arrivés. Est-ce que beaucoup seront partis ? Moi, je n'en ai pas trop vu, pour être honnête avec vous. Ce que je vois beaucoup, c'est des parents qui viennent mettre leurs enfants à Poitiers parce que le coût de la vie est aussi moins cher qu'ailleurs. Avoir un enfant étudiant à la fac à Poitiers ou à Bordeaux, bah, le coût du logement, ce n'est pas le même, tout simplement. Donc, on a beaucoup d'investisseurs qui viennent de l'extérieur pour pouvoir finalement acheter de l'immobilier, pour loger leurs enfants, puis finalement, derrière, on se rend compte qu'ils gardent leurs biens.
Alors, quand on compare les taux de rentabilité, c'est vrai que 6-8%, ça fait partie des villes les plus attractives.
Un mot tout de même des quartiers. Quartier plateau, quartier cathédrale. Expliquez-nous, pour ceux qui ne connaissent pas Poitiers, petit peu les différentes
logiques
ou des prix.
Madame Soulard pourrait vous expliquer extrêmement bien l'évolution de Poitiers, mais vous avez effectivement ce qu'on appelle chez nous le plateau. Pour des gens qui ne sont pas de Poitiers, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle les Poitevins, la butte. Voilà. Ce qui est situé donc au milieu des deux vallées, on l'a expliqué tout à l'heure. C'est un quartier qui est très prisé par les Poitevins. Ça suppose quand même d'avoir un certain pouvoir d'achat, puisque c'est l'endroit où l'immobilier est le plus cher. Quand on parle de maisons à 175 000 euros dans le centre-ville de Poitiers, c'est juste impossible. Voilà.
Donc c'est plutôt de l'ordre de 300
000 euros. C'est plutôt de l'ordre de 350 à 1 million, pour être très clair.
Ah oui.
Voire parfois un petit peu plus. On est sur de l'immobilier un peu plus luxueux, plus grand, évidemment, sur lequel les gens arrivent. Alors, à Poitiers, centre-ville, il n'y a pas non plus que des grandes maisons. Il y a aussi des logements, il y a des appartements, des choses comme ça. Les appartements dans le centre-ville de Poitiers, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est évidemment sur le secteur le plus cher. Au niveau des appartements aussi, il n'est pas déraisonnable de voir des appartements qui se vendent dans l'ancien, en tout cas, aux alentours de 3 200 euros dans l'ancien. Hein, donc, voilà.
Et si l'on sort de
si on sort du plateau,
oui.
Si on sort du plateau, dès que vous sortez du plateau, on a des prix qui, pour le coup, chutent. Hein, ça, c'est clair. Le quartier des Ponts-Neufs, qui est en pleine rénovation à l'heure actuelle, était un quartier qui était peu cher jusqu'à il y a peu de temps parce qu'on avait effectivement beaucoup d'habitats insalubres. Pour être très clair, on passait souvent des appartements à refaire à 1000 euros du mètre, voilà, qui se revendaient à 1800. Quand on arrive sur la fac, on est sur des investissements qui sont plutôt intéressants. Là, oui, on arrive tout de suite sur l'ancien, encore une fois, 1800, 2000 euros du mètre. Et puis, le quartier des Rocs, là où il y a moins d'appartements, enfin, en tout cas, c'est ce que je constate, on va être plutôt sur de la maison qui se vendait avant Covid, d'ailleurs, à 150, 180 000 euros, et aujourd'hui, qu'on voit assez facilement, assez aisément, à 300 000. Voilà.
Très bien. Je vous demande, comme c'est la tradition, en cette période, justement, d'incertitude, question posée aux notaires dans chaque ville où l'on passe, En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite vendre, bien acheter un bien immobilier? Vos conseils?
Alors, si on est vendeur, évidemment, à la qualité de son acheteur, c'est un peu évident, voilà, et ses capacités financières.
Ouais, à la solvabilité de son acheteur.
Oui, c'est évident. Quand on est acheteur, évidemment, il y a quelque chose qui, on en parlait tout à l'heure avec la personne qui est intervenue avant moi, il y a une chose qui est quand même de plus en plus prise en compte à l'heure actuelle par les acheteurs, c'est évidemment toute la qualité énergétique du bâtiment. Parce que s'il y a quelques années, un acheteur ne regardait pas, il faut être honnête, le DPE, aujourd'hui, c'est une pièce essentielle. Voilà. Mmh. Et il va tout de suite regarder quel est l'investissement qu'il doit faire pour pouvoir justement faire en sorte que cet investissement-là soit moins énergivore. Donc évidemment, les diagnostics sont des éléments qui sont hyper importants. Et puis après, c'est évidemment la typologie du bien par rapport à l'investissement qu'il veut faire. Est-ce que j'achète pour y habiter ou est-ce que j'achète pour le louer? Et dans quel secteur j'investir pour louer et à qui je dois louer? Eh bien, si vous achetez un appartement, par exemple, ce qu'on chez nous on appelle la ZUP, hein, les corneries, d'accord, ben, pour le coup, vous n'allez pas toucher la même clientèle que si vous achetez à côté des facs. C'est logique. Donc forcément, c'est effectivement en fonction du type d'achat et du type de clientèle que vous voulez toucher que vous allez choisir un quartier ou un autre.
Eh bien, merci infiniment, maître.
Restez avec nous. Après, effectivement, avoir vu, et merci encore une fois de vos conseils, j'ai retenu des taux de rentabilité qui donnent envie, puisque effectivement, aujourd'hui, on l'a bien vu, les taux de rendement, comme vous le savez, en France, se sont complètement atomisés dans certaines grandes villes. Là, on est à une encablure de Paris, 1h15 de Bordeaux, 1h15 de Paris. On a, je cite Maître Dubourg, un taux de rentabilité moyen entre 6 et 8%, peut-être même, quand on n'a pas peur des travaux aussi, faire des opérations de promotion-rénovation. Alors justement, ça me permet de faire cette transition. Je vous propose qu'on parle du logement abordable, du logement neuf, de la construction. On va recevoir dans quelques instants Amaury Vallée, qui est directeur régional Centre Val-de-Loire pour le groupe Nexity. Nexity, dont je rappelle qu'il est le leader en France de l'accession au logement et du logement abordable. C'est tout de suite après ça.
Les clés de la ville, la vie ensemble avec Nexity.
Eh bien, voilà, de retour sur le plateau. Ça, c'est vraiment la séquence que j'aime le plus, qui s'appelle la vie ensemble. Je trouve qu'il y a quelques... Je vais récompenser de ceux qui ont fait du marketing autour de cette marque. C'est extraordinaire. Ils ont quand même trouvé des fulgurances. La vie ensemble, bien mieux, parlons bien. C'est vraiment l'idée d'une cohésion sociale, d'une communauté, de faire souche dans une ville, parce que au-delà, bien évidemment, des aspérités financières et techniques, c'est aussi des êtres humains qui vivent et qui partagent des choses ensemble. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on en a besoin. Voilà. Bonjour à Amaury Vallée.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va Amaury?
Très bien.
Ben moi, je suis ravi que vous soyez là, justement. Ben, la question, c'est que Nexity, aujourd'hui, a une très forte présence historique sur Poitiers. Vous nous en dites quelques mots?
Oui. Écoutez, Nexity, c'est 25 ans de présence sur Poitiers et Grand Poitiers, avec sa filiale Foncier Conseil. C'est une présence territoriale, avec un investissement sur Grand Poitiers et Poitiers de 3500 logements sur les 25 dernières années, une installation de l'agence de l'aménagement en 1999 qui a été lancée grâce à une opération qui s'appelle la ZAC du Paty, qui fait 720 logements à l'époque. Et on a eu énormément d'opérations de ce type en aménagement. En complétude, on a fait aussi beaucoup d'opérations de promotion immobilière avec... Des types d'opérations comme une résidence senior à Saint-Éloi, qu'on a pu faire avec la SEP, des opérations libres, qu'on a pu faire sur tout le territoire de Grand Poitiers, et notamment une opération, je dirais des opérations sociales avec Equidom et Habitat de la Vienne.
Ce sont des Madame la Maire, des opérations emblématiques. Alors, je vais vous poser la question aussi à tous les deux. Je vais commencer par vous, Amaury. Est-ce qu'on continue ici, avec les élus locaux, l'agglo, on continue de produire du logement neuf?
Alors, on continue de produire du logement neuf. En effet, on fait moins de logements libres, bien sûr, parce que le marché c'est un petit peu écrasé de 40 à 50%. Ce que j'aimerais aussi dire, c'est que on est là aussi depuis 25 ans, je reviens sur ça, et on a une fiabilité de l'engagement, puisque quel que soit le cycle immobilier, on a toujours produit sur Poitiers. Je dis ça pour l'avenir. Est-ce qu'on construit demain encore à Poitiers?
Et en plus, vous avez même contracyclique, toujours tenu à rester présent sur le territoire. ce qui n'était pas le cas de grandes marques de promoteurs. Vous avez toujours eu cette volonté,
on est le seul
socialement, d'accompagner le territoire.
Déjà, on est le seul, à ma connaissance, le seul promoteur, aménageur national à être physiquement présent sur la ville de Poitiers. Et on continuera, on a des opérations encore en cours, et on continuera, je l'espère, à faire autant de logements sur les prochaines années.
Madame la maire, un commentaire, justement, c'est peut-être la construction de logements. Votre position à la lumière de ce que vient de nous expliquer Amaury ?
Aujourd'hui, je ne peux que partager le constat qu'on est sur un très fort ralentissement, en particulier cette année, et que la reprise dépendra de beaucoup de facteurs, la question du coût des travaux, la question des intérêts, des taux, etc. Ce que je peux dire, c'est qu'à Poitiers, il reste aussi des quartiers qui doivent être construits dans les prochaines années. Il nous reste du foncier, en fait, à Poitiers, qui fait partie d'opérations d'aménagement, soit en cours, soit...
Je caricature, mais vous refusez pas de signer les permis, quoi, concrètement.
On est exigeant sur les principes que j'ai présentés tout à l'heure. Par contre, on ne refuse pas de signer des permis, et on a besoin de gagner du logement à Poitiers. Enfin,
merci.
Du coup, on a une population en pleine
croissance. C'est bien de le dire.
Vous disiez qu'il y en a certains qui étaient en attente, hein, c'est ça, tout à l'heure.
Il y a des permis qui ont été accordés, mais qui, techniquement, sont OK, mais par contre, du point de vue...
Bien sûr.
Finalisation économique, ça ne tient plus, parce que le modèle d'il y a 2 ans n'est plus celui d'aujourd'hui.
Absolument. En fait,
c'est vrai que c'est pas évident.
Nous, traditionnellement, et ça fait très longtemps, on travaille avec les bailleurs sociaux, en VFA. Alors, on a fait tout type d'opérations très diverses. Donc, avait aussi bien des opérations de 20 logements à Montamisée, je parle d'une ville à côté, et que des opérations beaucoup plus importantes, type l'APSA, par exemple. Où à Saint-Benoît, on a fait une opération inclusive pour une association pour sourds aveugles et des retraités de l'ESAT. Ça, c'est des opérations qu'on veut faire, c'est de l'innovation qu'on fait. C'est de l'innovation qu'on fait aussi parce que nos partenaires nous poussent à faire ce type d'opération. Et ce qui a permis aussi au groupe, de se décomplexer sur ce type d'opération. Et de faire d'autres opérations de ce type inclusif.
Il y a deux choses que j'avais relevées. C'est la résidence de Mignalou, à Mignalou-Beauvoir, une pension de famille. Je trouve ça génial. Parce que, c'est vrai, au 19e siècle, il y avait des pensions de famille partout, vous savez, en ville. Et Balzac a beaucoup écrit sur la question, justement, des pensions de famille, notamment une pension de famille où Vautrin arrive, etc. Vous l'avez fait donc à Mignalou, et vous avez aussi dans les Jardins du Golfe, vous avez un lotissement qui est en cours de finalisation qui va comprendre 230 logements.
Oui, tout à fait. Alors, je vais commencer, c'est un peu le cas de deux innovations. Quand on fait de l'innovation, il n'y a pas que l'innovation technique et écologique, elle est là. On en a fait déjà en 2018 avec Equidom pour une opération en structure bois, c'était les premiers E-Wood. Où on était à -20, -30% de la réglementation thermique à l'époque, en biosourcé avec des entreprises locales, comme Merlot, qui est bien connu ici.
Très bien.
Et donc, c'est ça aussi, travailler sur le territoire, c'est travailler avec les partenaires, c'est travailler avec les entreprises locales.
Vous étiez même en avance par rapport aux obligations légales.
Oui, tout à fait, parce qu'on a aussi, en tant que leader, un devoir d'aller essayer, faire de la R&D pour pouvoir apporter... des opérations qui soient évidemment plus vertueuses écologiquement, mais surtout abordables. Parce que notre mantra, entre guillemets, c'est le logement pour toutes et pour tous, et on doit s'adresser à toute la population.
Mais pour ça, il faut
reprends...
vous...
Oui, voilà. Alors je reprends, Sylvain.
Eh oui.
L'opération donc de Mignalou-Beauvoir, c'est donc une pension de famille. Pension de famille, c'est-à-dire que c'est ouvert à des personnes à très grande précarité, c'est-à-dire sans domicile fixe ou en réinsertion. Et donc ça, c'est 14 logements. Ça, c'est dans le cadre de Next City Non Profit. C'est à part. On n'a pas à faire de marge dessus. On fait juste des honoraires. Et à côté, dans le même établissement, je dirais, on a 42 logements qui sont dédiés aussi à des personnes de très grande précarité, mais en urgence. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir et sortir quand ils veulent. Donc c'est des opérations avec Audacia, en association avec Audacia, et qui est gérée. Donc on a des bureaux administratifs, une salle commune, et toute cette population est gérée par Audacia.
On voit qu'il y a beaucoup d'innovations, et pour donner envie aux collectivités, effectivement, de lancer, de soutenir des opérations, il suffit plus de présenter des mètres carrés, des bâtiments. Il faut vraiment convaincre, il faut apporter de la pédagogie, il faut embarquer à la fois les élus, les riverains, les acteurs économiques. Enfin, il y a vraiment un rôle moteur, et là-dessus, je crois que vous insistez énormément. Et de passer d'un urbanisme aussi de construction à un urbanisme de transformation.
C'est ce qu'on a fait sur l'opération, justement, les Allées du Golfe, portée par Pascal Chéniaud, ici présent, et Foncier Conseil. On est venu intégrer une opération e-wood une fois de plus, en se disant, voilà, il faut apporter un plus. Écologiquement, on est à Poitiers, on a donné le curseur pour aller jusqu'à l'Aéro 2028, en biosourcé, et on est en Pinel Plus. Bon, ça, demain, on ne pourra plus. Mais en tout cas, c'est une opération qu'on va démarrer à la fin de l'année. Et c'est une bonne nouvelle pour clore, entre guillemets, la ZAC.
Alors, nous, on a envie de voir les prix du logement neuf. Est-ce qu'ils sont plus élevés que l'ancien? Question, quel est le prix moyen, si vous avez cette donnée à Maury, du prix du mètre carré neuf, ici, dans l'agglomération de Poitiers?
Alors, on a un prix de 3500 euros du mètre carré.
Moyen.
Alors, après, moyen. Moi, je rejoins ce que disait Madame le maire. On est à 4000 euros plutôt pour les petites surfaces. Par contre, aujourd'hui...
Le parking est inclus, hein, dedans.
Le parking est toujours inclus. L'opération, les opérations, on est à peu près à 100 réservations entre 2023 en année glissante et deuxième trimestre 2023, deuxième trimestre 2024. Et ce qui est à noter, c'est les opérations en retrait ou transformées en logement social. Et ça, on a à peu près 200 logements qui a été retiré.
Quel profil des clients, c'est des primo-accédants, c'est des investisseurs?
On est plutôt aujourd'hui sur des investisseurs.
Oui.
Et c'est exactement ce qu'on doit retrouver demain, c'est une population de primo-accédants.
Même s'il n'y aura plus de dispositif oui. Pinel.
Même s'il n'y aura plus de dispositif Pinel. En fait, on a un stock de 10 ou 1 à peu près, hein, si on compte
oui,
aujourd'hui.
Oui, d'accord.
Mais ce qu'il faut, c'est aller chercher de la primo-accession. Comment on fait pour trouver de la primo-accession aujourd'hui pour que ce soit vraiment impactant? Il y a trois possibilités que je vois. C'est un, c'est aller trouver des opérations en QPV, en quartier prioritaire de ville, en TV5-5, en BRS. Ça n'a pas encore été fait, je crois.
C'est important parce que TVA 5,5, ben, c'est un écart quand même qui est très significatif sur le prix. Hein.
Exactement. Et ça permettrait d'arriver à des prix autour de... Il ne faudrait pas pouvoir dépasser entre 2008 et 3000 euros. L'objectif, de toute façon, c'est de se dire que la mensualité doit être peu ou prou égale
au loyer, au prix d'un loyer.
Et que les économies d'énergie aussi, par rapport à un bâtiment, je dirais, plus classique, en D... doit être à peu près de 50 à 60 euros. Donc globalement, c'est-à-dire c'est pousser l'acquéreur à ce qu'il y ait une vraie prime à l'acquisition.
Commentaire, Madame la maire.
Bon, non, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais peut-être juste pour revenir sur ce que vous évoquiez sur la question du rôle de la commande publique, du rôle des bailleurs sociaux, une autre marque de fabrique de notre territoire, c'est une forte culture de la coopération. Alors, qui dit coopération, on dit pas forcément qu'on est tout le temps d'accord sur tout, mais au moins, on a un vrai engagement sur la commande publique entre tous les donneurs d'ordre public du territoire. On a un vrai dialogue avec le secteur du bâtiment, la chambre de commerce par ailleurs. Enfin, on essaye d'avoir une visibilité commune sur les besoins du territoire, sur les enjeux des uns des autres et donc sur la manière dont on peut ensemble y répondre. Et ça peut aussi être, c'est très facilitant, en tout cas, je le constate dans, comment on peut faire face aux besoins, mais aussi aux difficultés contextuelles. Et voilà, Poitiers est un territoire coopératif et j'en suis fier.
Demain, en tout cas, le chemin de crête, il est sur l'accession, la primo-accession, et aussi sur, je dirais, la transformation d'actifs obsolètes, comme on a pu faire aux casernes
à Châtellerault. Oui, très bien.
Et ça, c'est une opération où, que ce soit au niveau carbone je dirais réhabilitation de la ville, de la fabrication de la ville. Qui est,
en fait, vous avez pris une caserne de pompiers, vous la réhabilitez, vous allez sortir 120 logements.
120 logements en résidence senior avec Égide Domitis.
C'est super. Voilà. C'est super. Alors justement, on parlait tout à l'heure du Pinel, on parlait des prix alors, au mètre carré. Si on loue aujourd'hui dans le neuf, ça coûte combien?
Ça coûte entre 9 et 11 euros selon la typologie.
D'accord. Pour un T1, c'est 16 euros du mètre carré.
Alors 16 euros du mètre carré, ça c'est plutôt en résidence étudiante.
D'accord. Et pour un T2, on est à 11 euros en moyenne ?
C'est ça.
11 euros. Et on est, ça fait rêver par rapport à Paris. On est à 41 euros. Enfin, je suis complètement déphasé. Appartement d'un T3, on est à 9 euros du mètre carré ?
Oui, tout à fait, oui.
9 ?
9 euros.
Parking
9...
inclus ?
Oui, tout à fait. Donc, c'est là que... oui, tout à fait. Et c'est là que la...
Liliane, fais les valises.
Faut pas le dire trop fort.
C'est pas cher.
Oui, quoi, ça. C'est, ben, Olivier. Voilà. Ouais, c'est... Alors après, la problématique, comme vous l'avez, comme vous pouvez le deviner, c'est que l'équation économique est très compliquée. Évidemment.
Oui, parce que
par
c'est
rapport
pas le tout,
déjà
pas...
à l'ancien.
Oui, ouais, bah oui.
Et par rapport à l'ancien et par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché, on n'a pas de boni par rapport à l'équation écologique.
Ouais. C'est tout à fait. Applaudissements pour Amaury Vallée, s'il vous plaît. Restez avec nous, Amaury. Voilà, il est temps de conclure, mais comme vous savez, comme au théâtre, il faut toujours soigner son entrée, mais aussi sa sortie. Je voulais vous dire à toutes et à tous que c'est un vrai plaisir d'être ici à Poitiers avec l'ensemble de vos équipes, et que pour nous, c'est vraiment une chance inouïe de découvrir la France à l'échelle Iris des quartiers, de la rue, et de rencontrer ceux qui fabriquent des territoires, avec, encore une fois, j'insiste lourdement là-dessus, le rôle primordial qu'ont aujourd'hui les élus locaux. Ça, c'est un message que j'envoie à l'exécutif. Rappelez-vous que sans les élus locaux, eh bien, il n'y a plus de République, car c'est la République des élus locaux qui a forgé cette 5e République. Quelques mots, Olivier Marin, pour notre gueule. On va parler notamment de la ville où nous serons le mois prochain. Nous serons à Saint-Dizier.
Nous serons à Saint-Dizier le mois prochain. Et après, nous allons continuer 2025 avec Cannes, avec Auxerre, avec Bayonne, avec les Sables-d'Olonne, enfin beaucoup de villes.
Absolument. Nous sommes les compagnons du devoir des médias. Voilà. On fait le tour de France. On fait le tour de France que j'ai le plaisir d'ailleurs de faire, moi, il y a 40 ans. Un tour de France qui a duré une dizaine d'années. Oui. Tour de France. Eh oui, ouais. J'ai fait le tour de France. Un ancien compagnon. Je voudrais, effectivement, comme c'est d'ailleurs l'usage dans notre émission, on aimerait, Léonore m'en conduit, vous laisser le mot de la conclusion. Voilà. Très spontané. Et vraiment, au nom de l'équipe, remerciant Grégoire Daricot, les équipes de Nexity, les équipes d'Elio, les équipes du CSN, notre ami Baptiste qui est derrière la commande, et Lorenzo Il Magnifico qui est derrière notre super régisseur italien pour l'organisation de cet événement. Merci également au DIRCOM de la ville qui nous a généreusement accueillis, de votre cabinet, et bien sûr de vous-même. Vous avez la parole.
Merci. Bon, avant tout, mes remerciements renouvelés, pardon, pour votre venue à Poitiers. Alors, peut-être une dimension pour conclure dont on a finalement assez peu parlé. On a parlé beaucoup d'avenir. C'est vrai que Poitiers est une ville qui se projette beaucoup dans tous les enjeux contemporains et d'avenir, notamment la transition écologique, mais pas uniquement. Mais je souhaite aussi insister sur le fait que Poitiers est aussi profondément une ville ancrée dans son histoire. On l'a vu dans le reportage. Et ça mobilise aussi, beaucoup, sincèrement et avec beaucoup de moyens, nos politiques publiques. On appelle parfois la ville Poitiers la ville au sans clocher. On a parlé du palais, mais on a aussi, par exemple, un projet de réhabilitation de l'église Notre-Dame, qui est vraiment un joyau de l'art roman. Et ça fait partie, ça contribue à l'attractivité de la ville, ça contribue à la qualité de vie de la ville de Poitiers. Et intrinsèquement, Poitiers est une ville très riche d'un point de vue patrimonial et historique. Et voilà, ça fait indéniablement partie de ces atouts que nous attelons aussi à préserver et valoriser.
Merci beaucoup. Applaudissements pour Léonore Bonconduit, maire de Poitiers. Venez ici à Poitiers, venez vous installer. Poitiers, aujourd'hui, est une ville, comme des villes que nous parcourons partout sur le territoire avec Olivier, des villes qui ont ce mérite de mettre en relief ce territoire, d'avoir finalement, comme vous le disiez très justement, Madame la maire, les pieds dans cette tradition séculaire, dans cette histoire, mais toujours très projetée sur l'avenir, qui est la garantie de la pérennité de la ville. C'est le cas de la ville de Poitiers. Le mois prochain, nous serons donc à Saint-Dizier avec le maire Quentin Brière, qui nous attend aussi, un élu, encore une fois, comme on les aime. Merci à toutes et à tous de suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ce programme, je rappelle que vous pouvez l'avoir sur Radio Immo en podcast, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez également acheter le Figaro. C'est fortement conseiller.
Ou sur Internet.
Ou sur Internet, absolument. Parce que maintenant, on est à l'ère du digital, hein, même pour des personnes âgées comme nous. Voilà. Merci en tout cas d'avoir suivi cette émission. Merci au public d'avoir été avec nous, de nous avoir accompagnés. Prenez soin de vous. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro des Clés de la Ville.
Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Immo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.